Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir encore pour ce moment unique de dialogue et d'échange. Avec vous, je découvre chaque soir des personnalités différentes, des parcours de vie différents. Mais je découvre aussi que vous avez souvent un point commun, vous êtes la plupart du temps des résilients. La résilience, c'est la capacité à faire face à l'adversité, à transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et pour en sortir plus fort. Et au fil de nos échanges, je suis souvent bluffée de voir comment, malgré les épreuves que vous surmontez, vous êtes toujours debout à l'intérieur. Une personnalité résiliente comprend aussi qu'elle est l'architecte de sa vie et de son destin. Alors continuons ce chemin ensemble et venez construire les briques de votre reconstruction en commençant par poser des mots sur ce qui vous arrive, car vous le savez, tout commence par des pensées qui deviennent nos mots, puis nos actions. Les pensées, vous les avez déjà et je me doute qu'elles tournent à l'intérieur. Venez donc y ajouter des mots pour que nous puissions voir ensemble les actions les plus positives que vous pourriez mettre en place. Pour intervenir ce soir sur cette libre antenne, vous avez trois possibilités. Nous appeler au 3921. Amandine et Hassan sont prêts à vous accueillir. Nous envoyer un SMS au 739-21 en commençant bien par le mot « nuit » pour apporter un commentaire, une suggestion. Ou pour demander à intervenir à l'antenne si ça peut être utile. Et puis vos mails, bien sûr, à libreantenne@europe1.fr. À la réalisation ce soir, Fabrice Fougeroux est fin prêt, enfin j'espère. Et le premier appel que je vais prendre, ce sera celui de Nicole, qui a des problèmes de communication avec son mari. Elle va nous expliquer ça dans un instant. Et on va donc commencer cette libre antenne du dimanche soir avec Nicole. Bonsoir Nicole.
Bonsoir.
Bienvenue. Salut. Bienvenue.
Merci. Comment je vais commencer ?
Par le début, dites-moi tout. Quelle est votre histoire de vie à vous ?
Ma histoire n'est pas très marrante, mais bon, je vis avec quelqu'un depuis pas mal d'années et j'ai pas mal de difficultés parce que c'est un homme qui a tout pour être bien. Moi, je suis heureuse avec cet homme, mais il ne parle pas quand il y a des choses un petit peu délicates dans le couple. Il s'enferme et puis je peux pas en savoir plus. Donc c'est ennuyeux. Et moi j'ai pas l'habitude de ça, parce que moi quand j'ai besoin de dire quelque chose, je le dis. Ça passe mal, mais je le dis. Au moins l'autre personne sait ce que j'ai. Et moi je vis avec quelqu'un qui ne parle pas. On a beaucoup parlé au départ, puis je comprends pas.
Je voulais vous demander. Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Est-ce que c'est un problème récurrent ou est-ce que c'est récent?
Non. Au départ, bon, c'est quelqu'un qui était séparé, qui n'avait pas de discussion avec sa femme, parce que sa femme travaillait très très loin de leur maison, donc ils voyaient très peu. Et après, bon, on s'est connus, c'était autre chose. Ça se passait bien, quand c'est tout beau, c'est quand c'est nouveau, c'est tout beau.
Oui, ce qu'il y a qu'au début, c'est toujours pareil, on montre le meilleur de soi.
Moi, je n'ai pas fait voir le meilleur, j'ai fait voir tout ce qui était bon et tout ce qui était mauvais. Moi, je n'aime pas faire, parce que je sais qu'à un moment donné, on va retomber sur la même chose. Donc, au moins, quand j'ai voulu crier un jour, il m'a vu que je criais. Bon, comme beaucoup de femmes, sûrement. Et quand je calme, je calme. Mais quand je dis quelque chose, j'ai envie de le dire, j'ai pas besoin de.
Mais c'est curieux quand même que vous disiez qu'il parlait au début. C'est un trait de personnalité normalement qui change pas, quoi.
Il y a des choses qui. Bon, il s'enferme beaucoup assez vite pour. Pour une bêtise, je sais pas. Je me lève peut-être un matin, je suis peut-être pas. J'ai pas dit bonjour, j'en sais rien. Et puis, bon, ça lui plaît pas. Mais il sait pas venir me dire bonjour pour essayer. Non, ce qui s'est passé aussi à un moment donné, c'est que j'arrive pas à dormir. Je suis un petit peu prise avec lui. Et la nuit, je dors pas beaucoup. Je m'endors très tard et je me suis mise, c'est vrai, sur Internet, à jouer aux cartes, à faire des jeux, à pas mal de choses. Et je me couchais plus tard. Puis, ce genre de jeu, Au départ, on se dit, on va jouer 10 minutes, mais on est là pendant 2 heures, 3 heures, on ne voit pas l'heure.
C'est traître, hein, c'est très addictif, tous ces jeux-là.
Très, oui. Alors, je me suis dit, moi, je ne suis pas ça, je ne veux pas faire ça.
Pardonnez-moi, Nicole, est-ce que je peux vous demander de bouger un tout petit peu ou de vous éloigner? Je ne sais pas, parce que je trouve que éloignez-vous un tout petit peu du combiné, le son est de plus en plus mauvais, là.
Et ici, est-ce que c'est mieux comme ça?
Ben non, ça ne change pas.
Attendez, mais je parle là, je pense pas que ça...
Non, ça devrait aggraver. Pourquoi les... On parle de dialogue, mais je vous avoue que c'est un peu compliqué de dialoguer là, avec un bruit comme ça.
Alors, est-ce qu'on pourrait le faire je peux avoir la dame? Je lui donne un autre numéro de téléphone, si c'est possible.
Ça va être... Qu'est-ce qu'on fait, non. Fabrice? Je pose la question à mon réalisateur. Bon, bah, écoutez, oui, on va peut-être faire ça, parce que c'est pas agréable pour nous et c'est pas agréable pour les auditeurs non plus. Donc on va passer un peu de musique.
Moi, ça passe bien, par contre. Je vous entends très bien.
Non, nous, on a vraiment on a beaucoup de bruit, ça crachouille, c'est pas évident. Ce qu'on fait, vous ne quittez pas, je vous repasse Amandine, on passe un peu de musique et on vous rappelle sur un autre numéro pour voir si c'est plus clair. Il vaut mieux qu'on fasse ça. Merci beaucoup, Nicole. Alors, quelquefois, le mieux est l'ennemi du bien. On a essayé de rappeler Nicole pour essayer d'avoir une meilleure communication. Du coup, on n'arrive plus à la joindre du tout. Donc, on va finir par essayer les signaux de fumée si on n'y arrive pas. Amandine est sur le coup. Elle est en train d'essayer de recontacter Nicole. En attendant, je vais accueillir avec plaisir Valérie. Bonsoir, Valérie.
Bonsoir.
Ah, on vous entend bien. Bienvenue.
Merci. Enfin, je suis un peu émue et j'adore cette chanson qui vient de passer.
Elle est belle. Hein, les paroles sont magnifiques. Ouais. Ouais.
Et je la compare un peu à moi. J'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup de temps et que le temps est passé vite.
Oh, je ne sais pas si c'est... Je sais pas. Vous adorez qui, pardon ?
La mélodie. Enfin, j'adore...
Oui, c'est très entraînant.
La
ouais.
musique, c'est très beau, c'est super.
Mais le temps qui passe, je crois que c'est une constante pour beaucoup de gens et j'ai l'impression que plus on vieillit, plus les années passent vite. De plus en plus vite.
Oui.
Hein. On a toujours l'impression d'avoir 20 ans à l'intérieur et c'est ce qu'on dit Bruel, on se regarde dans le miroir, on dit mais qui est cette dame dans le miroir ?
Ouais, c'est vrai, tout à fait.
Et oui.
Et c'est vrai que les paroles que vous avez dit, que on est fort, plus on a des choses qui nous arrivent dans la vie, plus on a des moments durs et plus on est fort et plus on se bat, mais au bout d'un moment, c'est dur. C'est dur de se battre.
Alors racontez-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé, Valérie ?
Eh bien, il y a 8 ans, j'étais mariée et j'ai perdu mon mari d'un suicide. Et depuis, c'est très dur.
J'imagine.
J'ai tout perdu, j'ai perdu tout. J'ai perdu ma vie de famille, ma maison. J'ai tout perdu, quoi. Et c'est très dur de se relever. C'était
vous étiez
dur avant, pendant, après.
Vous étiez mariée depuis combien de temps ?
23 ans.
Pourquoi vous me dites que c'était dur avant ?
Parce qu'il y a eu beaucoup de choses à Vancouver que je n'ai pas trop envie de dévoiler à la radio.
Et vous voulez dire dur dans votre couple ou ailleurs ?
Dans le couple.
Donc,
et
d'accord.
Peut-être un peu dans la vie aussi.
Mmh. Vous avez eu des enfants ensemble ?
Oui, j'ai une grande fille.
D'accord. Et donc, pour quelle raison votre mari a décidé d'en finir ?
Ben, parce qu'il avait... Mais il n'avait pas envie d'assumer certaines choses, et puis voilà quoi. Mais il ne nous a pas mis de petits mots pour nous dire adieu, nous embrasser, etc. C'était dur.
Ça a été le choc total pour vous ?
Oui, quand même.
Ouais.
Et puis, donc, il a fait ça à la maison, il n'est pas mort tout de suite. Et on a décidé, Franck nous a demandé de donner tous ses organes, chose qu'on a faite. Et voilà. Et moi, c'est très dur de me reconstruire. Je suis très, très perdue. Et puis, j'essaie de me reconstruire et je tombe toujours sur les mêmes personnalités d'hommes. Enfin, et à chaque fois, c'est dur, quoi. Chaque échec est dur.
Avant, pardonnez-moi, avant cet homme-là, il y en a eu d'autres ?
Non, j'étais jeune, j'ai eu des petits amis comme ça, oui, mais pas comme mon mari, quoi.
D'accord. Et sans dévoiler trop de choses, j'ai besoin de comprendre un petit peu votre parcours. Des problèmes de quel type vous aviez ? Parce que c'est ça qui peut expliquer aussi ce schéma répétitif qu'il y a maintenant. Mais...
Bah, peut-être pas avoir confiance en moi et pas m'aimer moi-même. Je pense.
Et donc du coup, est-ce que ce manque de confiance en vous a pu déclencher par exemple des scènes de jalousie ou des choses comme ça ?
Peut-être, oui, mais non, je pense que j'étais plus renfermée, quoi. Je ne sais pas. Enfin, c'est pas très facile à expliquer. C'est pas très facile à comprendre.
C'est que les conflits dans votre couple, vous pensez que ça venait du fait que vous n'étiez pas assez confiante en vous ?
Non, je pense pas. Il n'y avait pas que ça, je pense.
Ah.
Il n'y avait pas que ça non plus. Et puis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, voilà. Bon, moi, c'est surtout que j'ai beaucoup de mal à me reconstruire, quoi, maintenant, actuellement, quoi. J'ai plus trop goût à rien par rapport à avant. J'ai plus trop goût à avancer dans la vie. Bon, j'ai un travail, j'ai un toit, j'ai une voiture, je fais de la moto, mais...
Vous n'arrivez pas à raccrocher un petit peu les wagons, comme on dit.
Oh, voilà. Et puis, je voudrais avoir une vie tranquille. Je voudrais trouver quelqu'un qui est libre, qui est pas accroché partout, quoi. J'ai l'impression que je cours après quelque chose plein de choses que j'ai pas faites. Ou je voudrais avoir plein de choses que j'ai pas eues. Mais pas de l'argent ni des biens, hein. C'est pas ça que je parle. C'est de l'amour, je pense, et puis faire plein de choses.
Qu'est-ce que vous avez...
Être à deux, surtout. Être à deux et faire plein de choses, et puis partager plein de choses.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre mari s'est suicidé ? La première émotion...
L'abandon.
L'abandon ? La colère. Mmh. Est-ce que vous lui en avez voulu de partir comme ça ?
Eh oui, quand même.
Et est-ce que vous vous êtes sentie coupable ?
Oui, aussi.
Ouais. C'est normal, hein, la plupart du temps, quand quelqu'un de proche se suicide, on se sent extrêmement coupable.
Oui, j'ai suivi, donc, c'est quand j'ai donné les organes, la petite est dans les organes, et je la vois encore une fois par mois. Elle m'a beaucoup aidée, c'est une femme merveilleuse, et je la remercie. D'ailleurs, elle ne peut pas nous entendre, je ne pense pas qu'elle écoute à ce heure-ci. Mais elle a fait beaucoup.
Vous lui ferez écouter le replay de l'émission en ce moment-là, elle sera contente.
Oui, peut-être.
C'est important de me remercier de mettre en avant les bons thérapeutes, hein, les bons psys.
Bah, je l'ai déjà fait oralement devant elle.
Ouais.
Et elle m'a beaucoup aidée pour plein de choses, quoi.
Non, je vous posais la question parce que quand on se culpabilise quand un proche s'est suicidé, et une fois de plus, c'est normal, tout le monde passe par cette phase-là, on peut inconsciemment s'interdire d'être heureuse derrière.
C'est comme peut-être aussi, je ne sais pas.
Ouais, c'est comme si une partie de vous se disait, mais de toute façon, je ne mérite pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, donc je vais aller vers des histoires qui sont vouées à l'échec systématiquement. Je ne peux pas m'autoriser à être amoureuse et heureuse après ce qui s'est passé.
Ouais.
Est-ce que vous avez parlé de ça avec elle, avec votre psy ?
Ah oui, bah, de toute façon, oui, je lui dis tout, quoi. Elle sait tout de ma vie.
Non, bien sûr, je veux dire, est-ce que vous avez travaillé sur ce côté-là, sur cette culpabilité qui pourrait peut-être vous empêcher ?
Oui. Oui, puis je lis plein de livres de psychologie. Là, je suis en train de lire sur l'hypnose. Enfin, je lis plein de choses. Je me remets en question. Je travaille sur moi-même. Je me retrouve dans ces bouquins, toutes ces lignes. Des fois, même, ça fait peur, quoi. Parce que, voilà, quoi. En fin de compte, mais je pense que plus je me remets en question, plus je regarde derrière moi, plus je m'analyse et plus ça me fait peur, quoi, parce que je sais tout ce que je veux et tout ce que je veux plus, quoi.
Bah, c'est plutôt bien. Pourquoi est-ce que ça vous fait peur, ça ? Ça permet quand même de choisir son chemin plutôt que de se laisser balloter.
Bah ouais, mais j'ai l'impression que ce que je veux, ça n'existe pas et que je le trouverai jamais. Et puis voilà, puis je tombe pas sur les bonnes personnes et j'ai l'impression, bon. Moi, je suis poisson, et donc je suis du signe du poisson. Et le poisson, c'est vrai, il a un grand cœur, il est rêveur. Et ça, c'est vrai. Et j'ai l'impression que je tombe sur des hommes à qui je dois porter secours ou aider. Ou ils sont encore moins bien sur le chemin que moi, quoi. Et j'en ai ras-le-bol, quoi.
C'est important ce que vous avez dit. Vous avez dit, ce que je cherche, j'ai l'impression que ça n'existe pas.
Oui.
Et en fait, moi, je pense que ça existe, bien sûr, mais que vous ne vous autorisez pas à ce que ça existe pour vous.
Oui,
c'est là où il y a un blocage.
Et ben mais voilà. Pourquoi je ne me l'autorise pas ?
Parce que vous n'avez pas encore évacué cette culpabilité, je pense, par rapport au suicide de votre mari.
Oui, je pense qu'il y a plein de culpabilités, il y a plein de choses.
Et donc, les barrières, c'est comme si vous... Les barrières invisibles, bien sûr, mais ce sont souvent les pires. C'est comme si vous les mettiez vous-même. Inconsciemment, oui. C'est-à-dire qu'il y a, probablement cette partie de vous qui se culpabilise tellement, qui se dit non mais je ne peux pas rencontrer l'homme idéal, l'homme avec qui je serai heureuse et qui m'apportera tout. Et vous me dites ce que j'espère n'existe pas, c'est comme pour vous justifier. Mais ce que vous espérez existe. Il y a plein de gens, heureusement, il y a des gens qui vivent des belles histoires avec un homme. Ou une femme inversement, bien sûr. Et en disant c'est comme si ça n'existait pas, je pense que ça n'existait pas, c'est comme si vous justifiez le fait que non mais de toute façon, c'est même pas la peine que j'essaie, ça ne marchera pas.
Oui.
Et c'est pas la partie de vous positive qui parle comme ça, c'est la partie de vous qui se sent coupable.
Oui, et puis bon, je sors pas non plus énormément, je sors que au cinéma. Bon, aller danser, bon, j'y vais vraiment, j'y vais peu, j'y vais quand avec des copines, et là c'est vraiment pour m'amuser. Je vais pas aller danser pour chercher une conquête parce que je sais très bien que c'est pas là qu'on peut trouver. Enfin, peut-être dans un bal, dans une soirée comme ça, voilà, ou je sais pas.
Mais le problème n'est pas là, Valérie, parce que même si vous sortiez partout tous les jours, tous les soirs, tant que vous êtes dans un schéma comme ça, vous ne tomberez que sur des hommes qui ne vous conviendront pas.
Oui.
Parce que vous ne vous êtes pas encore autorisé à trouver le bon. Donc là, c'est pas une question de ne pas faire de rencontres, de sortir, d'aller danser, d'aller où que vous alliez. Vous allez répéter le même schéma, tant que vous n'êtes pas sorti de ça. Mais ce qui me rassure quand même, c'est que vous êtes visiblement avec une très bonne thérapeute.
Oui.
Et donc, je pense qu'il faut encore soulever ce problème-là avec elle.
Hein. Je pense que je suis très, très... Je suis une personne qui est ultra forte et ultra, ultra sensible. Et je fais tout pour m'en sortir. Comme je vous ai dit, je lis beaucoup de choses. Je vais voir... plein de personnes, je vais voir un micro-kiné, je vais, j'ai fait de l'acupuncture, enfin, je fais toutes des choses qui puissent m'aider, je me remets en question, j'ai arrêté toutes sortes de médicaments, antidépresseurs, des médicaments pour dormir, je vais à mon travail, j'essaye de me booster, j'essaye de faire plein de choses, mais il y a des moments où...
Ça coince, c'est un truc qui bloque.
Oui, quand je tombe dans ce trou, là, je suis vraiment au fond de la vague. Et comme en ce moment, et c'est très, très dur, quoi.
Ouais, je comprends.
Et je baisse les bras et je me dis, mais c'est quoi la vie? Et j'en veux à tout, quoi. Et il n'y a plus rien de bien, quoi. J'ai plus rien envie de faire. Bon, il y a une chose aussi que... Il m'a fait beaucoup que j'ai été bloquée.
Valérie, pardonnez-moi, j'ai mon réalisateur qui me fait de grands signes. Il faut absolument qu'on fasse une toute petite pause, si vous voulez bien.
Oui.
Merci, je vous retrouve dans un tout petit instant. Merci beaucoup.
D'accord.
À tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Valérie, vous êtes là ?
Oui, je suis toujours là.
Oui. Dites-moi, je pensais à votre fille. Comment est-ce qu'elle a vécu tous ces événements et comment est-ce qu'elle va aujourd'hui ?
Elle a vécu très mal parce qu'elle était très très proche de son papa. Mmh. Elle adorait son papa. Et ouais, elle lui en veut, je pense. Je ne sais pas comment. On en parle, mais c'est très dur, quoi. Puis elle a dû passer à plusieurs phases comme moi, quoi. Mmh. Et je pense que oui, c'est très dur. Son papa lui manque énormément. Elle en souffre énormément, je pense.
Mais vous arrivez à vous soutenir l'une l'autre ?
Non. Oui et non, j'ai l'impression une grosse tranchée entre nous deux.
Elle a quel âge aujourd'hui cette fille ?
Elle a 29 ans.
Oh oui, c'est une femme, elle est adulte.
Oui, elle est bac plus 5, elle est ingénieure.
Ah, vous devez être fière d'elle.
Je suis très fière d'elle et j'en reviens pas non plus.
Est-ce qu'elle arrive à construire sa vie sentimentale ?
Ah non, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant.
Et voilà, et oui.
Et je pense qu'on est un petit peu des écorchés vifs.
Vous savez, on dit souvent que le suicide ne supprime pas la douleur, elle la déplace sur les épaules. Elle la déplace sur les épaules des autres, de ceux qui restent.
Oui.
Et dans votre cas, c'est vraiment...
C'est lourd à porter. Et je prie le bon Dieu tous les jours. Si seulement je pouvais rencontrer quelqu'un de magnifique qui pourrait me faire oublier tout ça. Je pense que quelqu'un qui saurait pourrait le faire, mais... quelqu'un de calme, de gentil, qui a envie de faire les mêmes choses. Je suis motarde en moi-même, hein. J'adore la moto. Mm-hmm. Et la moto, ça me fait oublier.
C'est un univers sympa, l'univers des motards.
Oui, et ça me fait, quand je suis sur ma moto, j'oublie tout. Enfin, j'oublie tout, je suis obligée de penser à autre chose. Je suis obligée... Et puis, j'habite pas loin des Vosges, donc les Vosges, c'est magnifique.
Les balades en moto chez vous, ça doit être plutôt agréable.
Ah oui, c'est très agréable, c'est super bien. Ouais,
par contre, là où voilà. je suis pas tout à fait d'accord avec vous, si vous me permettez, c'est que vous me dites j'aimerais rencontrer quelqu'un pour oublier, pour qu'il me fasse oublier. Je pense pas que ce soit le rôle de quelqu'un de vous faire oublier. Je pense qu'il faut que vous ayez terminé une étape, que vous ayez suffisamment grandi vous-même pour être prête à être heureuse avec quelqu'un d'autre.
Je sais pas si on peut oublier.
Il s'agit pas d'oublier. J'ai pas dit oublier. C'est grandir, faire ce deuil et arriver à notamment, je vous dis, moi, ce qui, je pense, qui bloque chez vous, c'est cette culpabilité-là. Si cette partie-là s'apaise, alors vous allez vous ouvrir. Et comme par hasard, en vous ouvrant, vous allez rencontrer les bonnes personnes. Bah, comment, avec votre thérapeute ?
Oui, c'est dur, ça fait déjà 8 ans, quoi.
Vous avez vraiment travaillé sur la culpabilité avec elle ?
Oui, j'ai rien à me reprocher. Non, je pense pas que... Je sais pas, j'ai peut-être de la culpabilité dans moi, autre, je ne sais pas, mais je me sens pas coupable de ça, quoi.
Vous m'aviez tout à l'heure parlé de livres sur l'hypnose. Est-ce que c'est une thérapie qui vous intéresse aussi ?
Ah oui, ça, j'en ai fait, mais peut-être trop tôt, quoi. Bon, ça coûte très cher, c'est pas remboursé, j'en ai pas les moyens, hélas, mais j'en ai fait un petit peu.
Alors, certaines mutuelles remboursent les séances, notamment les séances sur le tabac sont souvent remboursées. Et ouais, certaines mutuelles remboursent aussi d'autres séances, mais malheureusement pas toutes, ça c'est vrai. Ouais.
Oui, c'est dommage que, oui, parce qu'il y a des personnes comme nous, on devrait être vraiment aidées. Ma fille aussi en a fait, il n'y a pas longtemps, et puis, on aime bien toutes les médecines-là, on aime bien toutes ces thérapies-là, mais je pense que c'est profond, quoi. C'est très très profond.
Bah, c'est-à-dire, vous ne m'avez pas spécialement parlé des problèmes qu'il y avait avant. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment d'historique pour pouvoir avoir un tableau.
J'ai été violée quand j'avais 8 ans.
Ah, bah oui.
Donc,
ça. Et oui. Et oui, ça change l'éclairage de votre histoire de vie, ça, évidemment. Évidemment. Votre mari le savait ?
Oui, je lui ai dit.
Comment est-ce qu'il prenait ça, lui ?
Est-ce qu'il était... On en a parlé de fou. Là, lui, il en était pas... Non, il n'a rien dit, il ne m'aurait jamais rien reproché ou quoi. Voilà quoi.
Non, mais est-ce qu'il a été soutenant pour vous ? Est-ce qu'il a été consolant ? Est-ce qu'il a su trouver des mots pour vous apaiser ?
Non, je ne pense pas. Non.
Et oui, ça n'aide pas non plus. Ça.
Non, et je l'ai dit à ma maman, j'avais 30 ans quoi.
Ouais. Est-ce que vous étiez à l'écoute de l'émission hier soir ?
Non, pas du tout. Hier soir, j'étais avec des amis qui habitaient près de ma maison avant, des amis.
Je vous dis ça des parce garçons. Que la dernière auditrice qui est passée, vous pourriez l'écouter en replay, nous a beaucoup parlé de ça, elle a été violée 2 fois. Et elle soutient une association, justement, de femmes violées.
Oui.
Et elle parlait d'un gros problème qui est le problème de du délai de prescription, en fait. Elle a porté plainte aussi 30 ans plus tard.
Je suis guérie avec ça. La psy, elle m'a beaucoup aidée. C'est cette psy-là qui m'a aidée à faire ce deuil-là. Mais je pense que moi, c'est beaucoup que j'ai pas confiance du tout.
Bah voilà, maintenant que vous me dites ça.
En mon corps, en moi, en la femme, en ma personnalité, en ma personnalité, en moi-même, quoi. Bon, maintenant, avant. Je disais rien, je disais pas ce que je pensais. Si on me disait du mal ou si on me faisait du mal, j'osais pas, même au travail. Alors là, en 8 ans, j'ai énormément changé. Je dis les choses que je pense. Je dis beaucoup plus que je pense, ouais. Et même avec si j'ai un ami, je vais dire ce qui va pas. Je dis les choses et c'est vrai que j'ai beaucoup évolué, mais j'ai toujours pas confiance en moi, en la femme, en mon corps, en la femme, en je sais pas comment vous expliquer. C'est une confiance.
C'est normal, Valérie. Votre corps a été sali, a été humilié. Vous n'avez pas été respectée en tant que femme, en tant que petite fille, en tant que femme, forcément.
Oui.
Forcément, avec un éclairage comme ça, on comprend mieux ce qui s'est passé après.
Oui.
Donc il y a cette blessure là, plus la blessure derrière d'un suicide. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup.
Ouais, ça fait beaucoup.
Et donc vous êtes quand même super forte, quand même.
Ouais, je sais, je suis super
soyez capable aussi chaque matin de vous regarder dans le miroir et de vous faire des compliments. Hein, c'est
ouais,
important.
C'est ce que je lis aussi sur ce bouquin là, mais
de prendre conscience et, aussi de tout ce que
tous les jours.
Prendre conscience de tout ce qui est bon, de fort chez vous, de positif, de tout ce que vous avez surmonté pour en arriver là déjà. Hein.
Mais c'est dur pour moi. J'ai envie de vivre, j'ai envie de connaître plein de belles choses, j'ai envie de faire plein de belles choses. Et puis il y a des moments où je suis dans un creux de la vague et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je me lève pour aller travailler, je reviens, je vis quoi? Je vis pour qui? Pourquoi? Pour voilà la question que je me dis.
Vous me disiez tout à l'heure que vous ne prenez...
Je survis.
Vous ne prenez plus d'antidépresseurs, c'est ça?
Ah non, j'en veux plus, j'avais plus de mémoire. C'est une cochonnerie pour moi, ça. Tout ce qui est antidépresseur et pour dormir, de toute façon, c'est un pansement, quoi. C'est un pansement. Et c'est comme les gens qui boivent ou les gens qui se droguent pour oublier, mais la chose, ça te revient après, quoi.
Moi, je suis bien d'accord avec
ça. Je fume pas, je me drogue pas, je bois en société, j'aime bien le bon vin, je suis épicurienne, hein, j'aime bien les bonnes choses, j'adore les animaux, j'adore la nature.
Alors, c'est ce que j'allais vous demander, quand on arrête les antidépresseurs, c'est important ça. Est-ce que vous allez vous promener dans la nature?
Oui, puis j'ai des chats, j'adore la nature, ouais, j'adore l'eau, j'adore... Je fais plein de choses dans la nature. Quoi.
Est-ce que vous qui
êtes... Je suis émerveillée, moi, quand je vais...
Ah, c'est chouette, ça. Est-ce que vous qui êtes très branchée développement personnel, est-ce que vous vous êtes mise à la méditation?
Non, parce que le problème, c'est que en ce moment, les temps sont très durs. Hein. On l'entend assez sur tout partout. Moi, je suis toute seule. Je suis aide-soignante, donc j'ai un salaire, mais on est ponctionné un max, quoi. Et quand j'ai fini à la fin du mois de payer tout, quoi, la maison, la voiture, les factures, les mutuelles, les assurances, mon manger, mon essence, ben, il ne reste pas grand-chose. Et toutes les choses que j'aimerais faire, eh ben, c'est cher.
Attendez,
quoi.
Je ne comprends pas. La méditation, ça ne coûte rien du tout.
Oui, mais enfin, moi, il faudrait que je la fasse en groupe. Quoi. J'aimerais bien faire des choses en groupe.
La méditation, ça ne se fait pas en groupe. La méditation, vous téléchargez une bonne application gratuite. Et vous prenez entre 5 minutes au départ et jusqu'à 20 minutes quand vous serez un peu plus aguerri. Et ça, attendez, on en va reparler dans une petite minute si vous le voulez bien. On fait une courte pause à nouveau.
Oui.
Et là, je vais peut-être vous ouvrir à des choses qui peuvent être sympathiques et gratuites.
Oui, peut-être, oui.
Ne bougez pas, je vous récupère tout de suite.
Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute.
Valérie, vous êtes là ?
Oui, je suis toujours là.
Alors, si vous le permettez, je peux vous donner quelques petits conseils qui sont des aides quotidiennes et gratuites. Vous pouvez télécharger, il y a plusieurs applications, il y en a une très agréable et très sympathique qui s'appelle Petit Bambou.
Oui.
Et qui vous guidera dans une méditation chaque matin, ou chaque soir, comme vous voulez.
Oui, plutôt le soir, parce que le matin, c'est évident.
Et vous savez, quand les gens me disent « je n'ai pas le temps de faire de la méditation », je leur réponds que c'est souvent les gens qui ont le moins de temps qui doivent en faire le plus.
Ouais.
Et c'est vrai. On peut commencer par 3 minutes, 5 minutes. C'est comme un sport, vous savez, on n'est pas obligé d'être performant tout de suite. Juste se mettre à ça un temps pour vous. À un moment donné, vous appuyez sur le bouton pause et vous vous laissez guider par cette méditation qu'il y a sur cette application-là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous qui aimez l'hypnose, vous pouvez aussi faire des exercices. Vous amusez chaque jour, par exemple, à écrire sur un papier votre objectif en positif. Je souhaite rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un
de... Hein, c'est ce que j'ai lu dans mon bouquin là, sur l'hypnose. Là, avant, c'était sur... je ne sais plus. Il y a des feuilletons qui passent à la télé. Ils expliquent tout ça, l'hypnose. Et déjà, avant de se mettre dans l'hypnose, on connaît notre corps, on connaît nos cerveaux, on connaît tout ce qu'il faut qu'on fasse. Tout ça, je l'ai lu sur ce bouquin, mais c'est pas évident, quoi. Entre lire, essayer de faire et y arriver, quoi. C'est pas évident du tout.
J'ai pas dit
que c'était... Oui, on doit demander à nos cerveaux plein de choses, quoi, parce que c'est le cerveau qui... C'est le cerveau, comment ils appellent ça ? C'est pas le cerveau quand on vit quelque chose, qu'on vit quelque chose dans la vie. C'est le cerveau qui... silencieux, quoi.
C'est l'inconscient.
C'est pas évident de servir du cerveau, du cerveau, de l'inconscient. C'est pas évident.
Valérie, c'est pas évident, mais ça s'apprend. Si dès que je vous propose quelque chose, vous me dites c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Je suis bien d'accord, mais en même temps, si
c'est
vous n'essayez
pas. C'est pas facile, et c'est pour ça que je voudrais vous dire que, voyez, on pourrait avoir les possibilités d'avoir une personne, bah, par exemple vous, et puis de le faire, voyez, en groupe ou tout seul, ça serait super parce que une première mise en main comme ça, de mise en bouche comme ça, et je pense qu'après c'est plus facile. Que lire un bouquin ou l'entendre, c'est pas évident de le faire, quoi. Moi, par contre, j'aimerais bien le faire, quoi. Je suis preneuse, quoi. Mais c'est pas toujours évident.
Ben, oui, mais c'est comme tout, c'est un travail. Moi, je pense que si déjà vous avez trouvé les bons bouquins et que vous avez envie de le faire, commencez doucement à le mettre en pratique, petit à petit.
Mmh. Ouais, c'est ce que j'ai déjà commencé, là.
Autre chose
bon,
aussi...
j'ai pas fini ce livre, mais...
C'est quoi ce livre dont vous me parlez, là? Vous avez le titre, hein?
Oui, je vais aller voir parce que je ne l'ai pas sous la main, là. Je ne suis pas dans la bonne
pièce.
Parce
que je vous assure qu'écrire chaque jour son objectif, et vous ne m'avez pas laissé terminer, mais non seulement
oui,
vous l'écrivez chaque jour, vous écrivez chaque jour votre objectif, mais vous le lisez à haute voix.
Oui, ben, c'est ce qu'ils ont dit. Alors,
oui,
c'est
il y a des raisons à ça.
« Devenez mentaliste » de Bastien Bricou. Mais bon, ce n'est pas pour devenir mentaliste.
C'est pas de l'hypnose, hein, le mentalisme.
Non, mais c'est pour en venir à l'hypnose après. Et
ah bon.
c'est dans ce livre, il nous explique tout le fonctionnement de notre corps, de notre cerveau, de notre façon d'être, notre éducation, tout ce qu'on nous a injecté depuis qu'on est né, quoi, jusqu'à au moment où on lit, où on comprend tout ça. Et c'est pour après expliquer comment se passe l'hypnose. C'est vraiment pour expliquer toutes les choses là. Il est vachement intéressant parce que moi je voulais pas ce mentaliste, ça m'intéressait pas. C'était, je suis allée dans le rayon hypnose et ce livre il était dedans et ben il explique de A à Z quoi. L'hypnose il y arrive après quoi.
D'accord.
Après les explications du mentalisme.
Si vous intéressez vraiment au cerveau, il y a un livre passionnant qui est le livre de Deepak Chopra qui s'appelle Le fabuleux pouvoir de votre cerveau.
Oui, il paraît que.
Ah, c'est une merveille.
On ne l'utilise
livre.
Pas beaucoup.
Deepak Chopra, Les fabuleux pouvoirs de votre cerveau, ça va vous apprendre beaucoup de choses.
Et c'est vrai ce que vous dites, qu'il faut demander à notre cerveau, là, dans ce bouquin-là, il nous invite à demander à notre cerveau silencieux là, de lui demander de faire des choses, de nous aider à faire des choses, enfin, et c'est tout à fait vrai, mais bon...
C'est de l'autoprogrammation et ça marche très bien.
Voilà.
Mais une fois de plus, beaucoup de gens sont comme vous, ont l'impression que comme ça ne marche pas tout de suite, bah c'est dur. Bah oui, mais c'est comme un entraînement. Quelqu'un qui fait de la musculation, par exemple, ne va pas soulever 100 kilos au bout de la première semaine, c'est pareil.
Ouais.
On commence doucement, à son rythme, comme on peut, on fait de son mieux. Et un pas après l'autre, on avance.
En fin de compte, moi, je dis, on est fort, mais on se sent délaissé, quoi. Et c'est pour ça que là, ce que je vous disais, c'est de l'aide. On est de l'aide de quelqu'un, de l'aide pour faire ces choses-là. Je pense que c'est peut-être aussi ça qu'on a besoin. C'est peut-être qu'on se sent seul, on se sent perdu. Et on sent perdu, abandonné. Et il y a des moments, on lâche.
Et ben dans ces cas-là, on va se prendre par la main soi-même. C'est déjà ce que vous avez commencé à faire. On s'occupe de soi. Puis vous avez quand même une très bonne thérapeute. C'est pas rien, ça.
Ouais, elle est géniale.
Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui doivent vous envier, qui ont tellement de mal à trouver quelqu'un de bien.
Mais oui, mais je dis quelqu'un de bien, mais il faut déjà rien lui cacher. Il faut être très ouverte, il faut tout lui dire. Il faut vraiment être ouverte et rien cacher, vraiment. Et moi, elle m'a fait dire des choses que j'avais jamais, mais jamais confiées à personne, que je confierais jamais à personne. Mmh. Et des choses, et qu'elle m'a rassurée d'ailleurs, parce que c'est des choses que je voulais pas dire, mais en fin de compte, j'avais pas à en avoir honte. Et voilà quoi. Mais je pense qu'il faut être cash. Il faut vraiment être cash. Et puis, puis il faut trouver la bonne personne. Mais bon, moi avant elle, j'en ai eu d'autres, mais ça n'allait pas quoi.
Alors regardez là précieusement. Il y a plusieurs SMS qui sont arrivés. Il y a quelqu'un qui nous dit bien sûr que si la méditation se fait en groupe, oui, c'est pas ce que je voulais dire. Bien sûr, elle se fait en groupe, mais elle ne se fait pas que en groupe. Quand vous me disiez si je la fais pas en groupe, je la fais pas. C'est là que je suis pas d'accord. On peut la faire en groupe ou seule.
Non, mais vous avez raison aussi. Hein, de toute façon, je conteste pas moi parce que les exercices, il y a plein d'exercices sur ce bouquin. J'essaie de les faire, mais des fois. C'est pas évident de faire ça.
Autre très très bon conseil, évidemment, vous avez entièrement raison, c'est Feuille d'érable qui nous rappelle qu'il y a des séances de méditation gratuites sur YouTube de Christophe André. Et c'est vrai qu'elles sont excellentes aussi, oui, tout à fait. Merci beaucoup Feuille d'érable pour ce petit rappel.
Alors Petit Bambou et Feuille d'érable, faut pas jouer.
Non, Feuille d'érable, c'est le pseudo de la personne qui nous a envoyé le SMS.
Ah d'accord,
C'est Christophe André qui propose des séances de méditation sur YouTube.
D'accord. Ouais.
Et de manière générale, c'est très très bien fait ce qu'il propose. On va en rester là, Valérie, parce que j'ai beaucoup d'appels ce soir.
Oui, je me doute.
Avancez sur ce chemin, vous êtes sur le bon chemin. J'ai l'impression juste que ça avance pas assez vite à votre goût, mais vous allez voir qu'un pas après l'autre, on finit toujours par avancer.
Oui, c'est vrai que ça avance pas assez vite. On a envie que tout ça soit passé parce que l'horloge biologique tourne.
Ça va aller. Avancez un pas après l'autre et vous allez voir que vous y arriverez.
On va essayer de faire pour.
Ok, je vous embrasse. Merci pour votre appel.
Merci beaucoup de votre gentillesse. Je vous embrasse aussi.
Au revoir. Alors juste un petit rectificatif. Plusieurs personnes m'envoient des SMS en me disant « Mais bien sûr que si, la méditation en groupe, ça existe. » Oui, je crois que je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que se servir du prétexte « Je n'ai pas le temps » ou « Je n'ai pas trouvé de groupe pour ne pas faire de méditation », c'est là où je ne suis pas d'accord. Et c'est là où je disais « On peut la faire toute seule ». Mais bien évidemment, on peut méditer seule et on peut méditer en groupe. Voilà, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, on a retrouvé Nicole. Allô ?
Oui, bonsoir. Rebonsoir.
Oui, je suis désolée.
Vous m'entendez bien ?
Mieux que tout à l'heure, ça a été un peu compliqué. On ne vous entendait plus, après on vous a perdu. Et alors là, on va juste se dire youpi, et on est content de se retrouver, mais dans une minute, il va falloir déjà se quitter, le temps des infos. Mais là, on vous gardera précieusement pour ne plus vous perdre.
Bon.
Donc si je résume notre tout début de conversation tout à l'heure, j'ai même plus le temps. J'ai plus le temps. C'est un gag, Nicole, je suis désolée.
Je pense. Hein.
Je suis désolée.
Est-ce que je peux vous parler hors antenne ? C'est possible ?
Ça va être très difficile pendant les infos. Attendez, il faut vraiment que je rende l'antenne pour Chanel et je vous récupère juste après les infos. Merci beaucoup, à tout de suite.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
De la nuit sur Europe 1, il nous reste une petite heure à passer ensemble. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 3921 tout au long de l'émission. Amandine et Hassan sont prêts, ils sont au standard et attendent vos appels. Pour participer par SMS, je vous rappelle que vous faites le 7 39 21 en commençant bien par le mot nuit. Et puis les mails toujours à libreantenne@europe1.fr.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et on va maintenant retrouver enfin Nicole. Vous êtes toujours là, Nicole ?
Je suis là. Vous m'entendez ?
Maintenant que je vous tiens, je ne vous lâche plus. Je suis désolée, c'est ce qu'on appelle les contraintes du direct. On a plein d'éléments à gérer en même temps et on doit jongler avec
grave.
Tout ça. L'essentiel, c'est qu'on arrive à se parler.
Oui.
Donc, si je résume votre histoire, vous êtes mariée depuis 10 ans avec un monsieur qui, au départ, avait une bouche dont il servait pour parler, grosso modo, et qui, maintenant, est devenu une sorte d'huître.
Mais je pense qu'il a été sûrement comme ça, sûrement avant. Mais bon, quand on commence à se connaître, il y a tellement de choses à se dire. On se complétait pour plein de choses. Et j'ai pas compris un jour, je sais pas ce qu'il y a eu. Enfin bon, j'étais partie chez ma fille. Et puis bon, on a dû l'appeler. Il a dû lui dire à ma fille, est-ce que ta maman est là ? Puis elle a dit oui. Et puis bon. C'est tout, on s'en est arrêté là. Et puis, c'est là que je pense que ça a commencé, il y a eu des moments qui n'allait pas. Enfin, je chantais bien. Puis je vous disais tout à l'heure que je dormais très tard la nuit. Mm-hmm. Donc lui, il se couchait un petit peu plus, beaucoup plus tôt que moi. Alors je pense qu'on a commencé à s'éloigner l'un de l'autre. Quand je dormais, lui, il était réveillé. Quand il dormait, c'est moi qui étais réveillé. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on se croisait. Et c'est pas toujours très bon. Et c'est vrai que ça, quand je me suis mis à jouer comme ça le soir, moi, où j'écoutais la radio, où je lisais, où je jouais, mais parce que j'avais besoin de m'occuper, et puis j'avais pas sommeil.
C'est peut-être une question de juste milieu aussi, de dosage.
Parce que oui, si vous passez, comme
vous me disiez que vous passiez 2-3 heures sur Internet à jouer, si vous alliez plutôt le retrouver et faire un câlin, ça serait peut-être agréable pour le couple, non?
Mais c'est sûr, mais comme je n'aime pas déjà réveiller quelqu'un, hein, quand il s'endormait, bon, quand je rentrais dans le lit, ben, il dormait très, très énormément profondément, donc je ne le réveillais pas. Mais c'est sûr que je ne savais plus, puis même le matin, quand on essayait de parler, c'est vrai que c'était un petit peu difficile. Et c'est vrai que je n'ai pas compris que moi, bon, ayant déjà quelques années de différence, moi, ne travaillant plus, c'est pas que je dormais dans la journée, mais c'est pas pourquoi je n'arrivais pas à m'endormir le soir. Et je continue, hein, ça, c'est toujours la même chose. Et je savais pas quoi faire. Alors, prendre des médicaments pour dormir, moi, ça m'intéresse pas. Mais impossible de discuter. Au départ, on s'est dit plein de choses, mais c'est vrai, puis on était tellement complices. Moi, j'ai pas compris du jour au lendemain qu'il y avait plus de... On ne pouvait plus parler.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il bloque quand il y a des sujets qui sont un peu délicats ou qui l'embêtent?
Ben oui.
Mais est-ce que sur les choses positives, il parle?
Ah oui, oui. Mais tout ce qui touche la sexualité, par exemple, tout ce qui touche ça on ne peut pas en parler. C'est difficile d'en parler. Je ne sais pas comment faire de ce côté-là.
Non, la question que je vous posais, c'est est-ce que quand même sur les choses positives, il y a encore un échange entre vous?
Oui, on a des échanges. Oui.
Sur les sujets sympathiques.
Les plus importants. Enfin, oui, on est arrivé quand même assez loin des fois. C'est-à-dire que bon, c'est un homme qui ne savait pas trop ce que c'était une femme.
Pardonnez-moi que je comprenne bien, vous avez mentionné une différence d'âge, c'est-à-dire?
Enfin, on n'a pas beaucoup, on a quoi, 4 ans?
Ah oui, non, d'accord, c'est pas significatif.
Non, c'est pas 10 ou 15, non, 4
ans. D'accord.
C'est pas énorme, mais non. Il est quand même plus jeune que moi. Et donc, bon, voilà. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que, bon, c'est vrai que je suis peut-être une maman, plutôt. Enfin, je dis pas que je suis pas sa femme, ça n'a rien à voir, mais j'ai tellement été... nous, on était 5 filles à la maison, ma maman s'occupait tellement de nous qu'il me semble que je refais la même chose. C'est-à-dire, c'est pas... Pour moi, c'est mon mari, c'est vrai. Mais il y a des choses, tout bêtement, quand on va sortir, qu'il fait un peu froid, je vais lui dire qu'il faudrait qu'il mette une veste un peu plus chaude ou quoi. Et il me dit que c'est pas ma mère. Bon, ça va, bien, une fois, deux fois. Alors, je sais plus comment faire. Je sais bien que je suis pas sa mère, mais je fais comme si c'était mon enfant, c'est vrai.
Ah bah oui, mais si vous vous positionnez comme chose. Ça, croyez-vous que c'est très aphrodisiaque, ce comportement-là?
C'est sûr. Ben je non. pense que... Ben non.
Entre ça et passer des heures sur un écran le soir, ça va pas renforcer le côté attirance physique et sexuelle. Vous me disiez que vous n'en parliez pas avec lui parce que vous considérez qu'il y a un problème de ce côté-là et que vous aimeriez en parler?
Pour lui, pas pour moi, parce que moi je peux parler facilement. Mais lui, c'est difficile de parler de ce genre de choses. Donc j'ai demandé d'aller voir un médecin, d'aller voir un sexologue, quelque chose comme ça. Bon, il ne veut pas.
Parce que où est le problème de ce côté-là, Nicole? Qu'est-ce qui fonctionne pas entre vous?
Qu'est-ce qui fonctionne pas? C'est surtout le dialogue, parce que tout le reste va bien. Et puis lui, quand il s'enferme, par exemple, sur un problème, bon, c'est pas tout bêtement, j'en sais rien, on va aller faire des courses, moi j'ai pas envie. Bon, il va s'enfermer, il va aller faire les courses, il va revenir, et puis on va plus parler. C'est vraiment, des fois, c'est, bon, j'ai pas envie de sortir, parce que ça m'arrive, comme lui, il a pas envie de sortir. Bon, moi, ce que j'ai besoin, c'est bouger beaucoup, lui un peu moins sûrement. Moi, c'est la danse que j'ai besoin. C'est pour ça, là, je suis un peu fatiguée ce soir, parce que j'ai dansé toute l'après-midi. Et ça fait un bien, je peux vous dire, que si les gens sont mal dans leur peau, qu'ils aillent danser, et puis ça va mieux après.
C'est vrai que c'est formidable, la danse. Ouais. Ah oui, mais justement, bon, est-ce que vous ne pourriez pas instaurer une activité en commun? Parce que ça, ça soude un couple.
Non, mais c'est quelqu'un qui sait pas, non.
Ah oui, alors à un moment donné, il faut savoir aussi, est-ce que vous lui avez dit à quel point vous n'êtes pas satisfaite de ce qui se passe là?
Bah oui, oui, mais lui, il ne veut pas répondre, donc... Et pour la danse, puisque je reviens là-dessus, il vient me voir danser, il me regarde, danse avec d'autres hommes, ça lui fait rien. Enfin, je pense, il me semble que ça lui fait rien, mais enfin, j'en suis même sûre. Mais j'ai demandé, j'ai déjà demandé d'aller danser, d'aller apprendre. Si moi, lui apprendre, je pourrais pas. Mais d'aller apprendre lui, déjà, et puis voir comment ça se passe, ben non. Lui, il est bon. C'est un homme qui est quand même grand, fort. Il est plutôt c'est un pépiniériste, donc il est plutôt dans sa terre, dans ses arbres, dans ses plantes. La danse, c'est quelque
chose... Non, mais ça, je peux comprendre. Si c'est votre activité, c'est pas forcément la sienne, mais trouver quelque chose qui vous plaise à tous les deux.
Eh ben, c'est les sorties, c'est les vacances, c'est quand on peut, c'est parce qu'on travaille beaucoup l'été. Là, maintenant, ça va commencer.
Non, c'est pas ça que je vous demande. Tout ça ne fonctionne pas, visiblement. Ça ne restaure pas le dialogue. Ce que je vous demande, c'est de réfléchir à une activité que vous pourriez instaurer qui pourrait rétablir le dialogue entre vous.
Bon, on fait le jardinage ensemble, on fait du jardin, ça marche.
Vous parlez pendant ces moments-là?
Oui, de jardin, de tout ce qu'on est en train de faire.
Ouais, mais c'est pas vraiment se parler, ça, c'est pas...
on se parle.
C'est papoter, bon, c'est pas un vrai dialogue de fond.
Oui, bien sûr. Non, mais il y a aussi beaucoup de choses dans son travail que je l'aide et je pense qu'il a jamais, c'est vrai qu'il a jamais été aidé pendant des années. Là, j'arrive depuis 10 ans et c'est pas que je lui enlève son travail, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'ai toujours fait ça dans le temps, pendant que je travaillais et là maintenant je l'aide. Quand je n'ai pas envie, que j'ai pas le temps, que j'ai envie de faire autre chose, il se débrouille. Et je pense que c'est ça que j'ai dû lui prendre un peu trop de son travail. J'ai pris et puis il disait rien. Je le voyais, il était bien. Et puis je sais pas ce qu'il y a eu. Alors j'ai essayé d'en faire moins. Ben c'est toujours pareil. Alors bon.
Oui, puis c'est vrai que plus je vous écoute, plus je ressens ce côté aussi maman envers lui, quoi.
Ben, je l'étais avec ma fille et mes petits-enfants.
Mais ça fausse la donne. C'est pas bon dans un rapport de couple. On n'est pas la maman de son mari.
Ben, je sais bien. Mais je le fais pas exprès.
Non, mais j'entends bien. Mais peut-être pourriez-vous travailler là-dessus pour trouver votre place, votre vraie place, qui est une place de femme, pas de mère.
Ben, ça doit être difficile, ça, je pense.
Parce que pourquoi ça va être difficile? Pardon.
Je sais pas, ma maman, je pense qu'elle a vécu comme ça, elle nous a fait voir la même chose. On fait.
Et alors, vous êtes obligée de reproduire?
Non, non, je ne veux pas reproduire. Mais enfin, j'aimerais pas. C'est sûr que c'est pas toujours évident, mais je sais pas comment garder cet homme parce que c'est un homme que j'aime et que j'aimerais toujours. Même si on doit se séparer, je continuerai à l'aimer, mais je sais pas comment. Discuter avec... Enfin, je ne sais pas comment le faire parler, voilà. Pourtant, on a eu beaucoup de discussions.
Là aussi, c'est curieux. Le faire parler, c'est comme si vous parliez d'un enfant. C'est pas... Le faire parler, non, c'est votre mari. C'est pas le faire parler, c'est arriver à ce qu'il y ait une relation suffisamment ouverte pour que le dialogue s'installe. C'est pas un interrogatoire, vous n'êtes pas là pour le faire parler.
Par contre, le mettre
en garde sur le fait que vous êtes mal à l'aise de cette situation et lui demander comment ensemble vous pourriez trouver des solutions, des petites comme des grandes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour qu'on s'amuse ensemble, pour qu'on ait un échange? Est-ce qu'on pourrait trouver un moyen pour se coucher à la même heure? Si vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez vous relever après. Mais si vous le laissez aller s'endormir tout seul pendant que vous allez jouer sur Internet, vous n'allez pas aller très loin dans votre relation de couple.
Je me doute.
C'est une sorte de fuite ou d'abandon des deux côtés, ça.
Non, mais moi aussi, je me rends compte qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je suis tellement bien heureuse. Je suis heureuse avec lui. Puis, à un moment donné, j'ai envie d'être seule. J'ai un petit appartement. De temps en temps, je repars dans mon appartement pour dire que j'ai besoin d'être seule. Lui aussi, on vit ensemble, on a besoin d'être seule quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais en plus, on est le même signe. Ça, je ne sais pas si c'est bien bon. Ben, le même signe que les deux, on n'est pas nés le même mois, mais on est le même signe. Et il me semble que je vois, c'est mon miroir. Lui, il me dit que non, mais moi, je sais ce qu'il va me dire. Avant qu'il vienne me parler, je sais ce qu'il va me dire. Et ça, c'était pas toujours bon de savoir.
Ça, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je pense que ce qui est important, c'est justement le dialogue. Savoir ce que l'autre va dire, vous savez, quand on se connaît bien, qu'on s'aime, c'est un peu classique. On dit je te connais par cœur, je connais tes réponses avant qu'elles n'arrivent. Ça me paraît pas être un problème. Ce qui me paraît être un problème, c'est ce rapport maternel qui est pas bon, quoi. Vous étiez très très bien avec votre maman? Vous étiez heureuse d'être entourée comme ça?
Oui, enfin, j'ai pas été heureuse parce que j'ai mes parents qui se sont beaucoup disputés, qui se sont séparés, enfin, qui se séparent, c'était très grave. Moi, j'étais là au milieu, vers 14-15 ans, moi, j'allais au collège, et en sortant du collège, je voyais mon papa sortir d'une maison, qui n'était pas la mienne, bien sûr. Et je n'osais pas parler de ça à ma mère, et voilà, bon. Ce que je sais, c'est que j'ai peur qu'on m'abandonne. Voilà, ça, l'abandon, il me semble que j'ai une plaie. Qui ne s'est pas fermé. Mon papa n'est plus là depuis. Enfin, c'est même pas mon papa, c'est un homme, voilà, c'est un père qui m'a fait un jour, puis c'est tout. Et c'est pas quelqu'un qui était l'amour de ses enfants, et je ne pense pas qu'il a su nous en donner. Moi, à 13-14 ans, j'avais besoin de lui, il n'était jamais là. Donc, est-ce qu'il y a ça? J'ai voulu lui parler après, en grandissant, quand il s'est remarié avec une autre femme, qui est bien sûr que ma mère. Et là, il n'y avait pas de discussion. On pouvait pas parler parce que on avait le même caractère, et puis c'était pas facile de discuter. Et c'est vrai que ça me manque, ça, j'aurais voulu savoir quelque chose. Pourquoi on ne pouvait pas se parler, pourquoi mais j'ai jamais pu faire ça. Il n'est plus là. Oui. Mais si, j'étais bien avec nous, on était très bien avec notre maman. Notre maman, c'était, heureusement, elle faisait tout, elle faisait le papa, la maman, elle travaillait, elle s'occupait de nous. Elle a voulu remplacer mon père. Mais
et bon, avec ce père, vous ne pouviez pas parler du tout.
Comment?
Avec ce père, vous ne pouviez pas parler.
Bah, il n'était jamais là.
Et donc aujourd'hui, vous êtes, on ne parle pas. Aujourd'hui, vous êtes avec un homme avec qui vous ne pouvez pas parler non plus.
Bah oui. Est-ce que vous pensez que c'est le même schéma que j'ai eu?
Il y a quelque chose de qui se répète là, ouais. Bah oui. Allez comprendre un peu pourquoi vous vous êtes positionné comme ça. Et puis, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de garder le contrôle, qui a du mal à lâcher prise?
Oui, c'est vrai.
Mais vous m'auriez dit le contraire, je vous aurais pas cru. Mais là aussi, peut-être travailler là-dessus pour lâcher prise, parce que vous savez, c'est un peu le coup de l'élastique. Plus vous tirez d'un côté, plus il va tirer de l'autre, votre mari. Apprenez aussi à lâcher prise, à être plus cool sur certains trucs, parce que plus il va vous sentir en attente et en reproche non dit, plus il va se fermer. C'est pour ça que je vous parle.
Il me dit des fois qu'il est dans une bulle. Enfin, moi, quand j'ai connu, il était déjà dans sa bulle, hein. Il s'est enfermé. J'ai réussi un petit peu, il semble qu'il s'en est sorti.
Voilà une image intéressante. Moi, je ne pense pas qu'il faille le sortir de sa bulle. Je pense que vous pourriez rentrer dans la sienne avec lui.
Et comment on peut rentrer dans sa bulle?
En faisant des activités qui lui plaisent à lui, en lui proposant des choses sans être, j'allais dire menaçante, vous n'êtes pas menaçante, mais sans lui mettre de pression. Faire un pas vers lui aussi, et vous positionner non pas comme quelqu'un qui attend de lui quelque chose, je veux le faire parler, je veux qu'il sorte de sa bulle, non. C'est ouvrir. Alors l'idéal, ce serait d'ouvrir une bulle en commun, petit à petit, mais aussi lui permettre de lui offrir du temps, du calme, une activité qui serait sympa pour vous deux, et peut-être lâcher prise un petit peu, laisser couler les choses.
Ça, je ne sais pas faire, c'est vrai que... C'est difficile pour moi, ça.
Alors, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous, vous savez. Mais moi, c'est déjà... Quand on commence à arriver à lâcher les choses, ben, les situations changent.
Ben, en fait, je vais essayer de faire ça.
Laisser un peu d'espace aussi. L'espace moral, mental, c'est vraiment...
Ça, je sais pas, parce que j'ai tellement peur que je sois encore abandonnée, que c'est vrai que je suis souvent à côté de lui, derrière lui... Je peux pas le lâcher, c'est tout.
Mais en même temps, en étant comme ça, vous vous rendez compte que le résultat ne vous convient pas.
Bah oui.
Et je vous rappelle que si vous ne changez rien, rien ne changera. Donc si ce que vous essayez de faire ne convient pas, il faut trouver autre chose. D'accord. Une autre manière d'être pour arriver à l'objectif qui est le vôtre, qui est quand même de restaurer une relation de couple agréable, puisqu'il y a de l'amour. Donc tant qu'il y a de l'amour, c'est que tout va bien.
Ben oui, il y a ça encore.
Il faut juste faire le ménage sur les choses inutiles entre vous deux.
Ben oui, mais je regarde à trop de choses, c'est vrai que c'est ennuyeux. Bon, c'est comme ça.
Lâchez prise.
Bon, ben je vais essayer.
D'accord, Nicole.
D'accord, merci.
Je vous embrasse.
Au revoir, merci.
Bonne soirée, au revoir.
Bonsoir.
Et c'est Sébastien que j'accueille maintenant. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive ?
Alors, ce qui se passe, c'est que, en gros, j'étais avec la maman de ma fille qu'on a eu ensemble. J'étais avec elle depuis presque 5 ans. Mmh. Et au début de notre relation, tout se passait bien. Et à peine, elle avait déjà eu 2 enfants, un qui avait à cette époque-là 3 ans et une petite fille qui avait 1 an et demi.
Donc vous avez adopté toute la tribu?
Oui, en gros.
Et ça allait?
Ça allait au début. Mmh. Et quelques mois après notre relation, sa fille qui avait à peine 1 an et demi, donc je m'occupais, je faisais manger, je changeais la couche, tout ça régulièrement. Et un jour, je l'ai changée en la mettant sur le canapé. J'avais oublié de mettre la protection. Et ce qui se passait à ce moment-là, c'est que la maman est arrivée derrière moi, m'a mis un coup de poing dans la tête et un coup de poing dans le visage. Mes lunettes ont battu.
Oula. Elle a pris peur ou il y a eu un accident?
La maman, non, elle s'en est pris carrément à moi directement comme ça. J'étais en train de changer sa fille, changer la couche de sa fille, c'est juste parce qu'elle m'a frappé parce que je n'avais pas mis la protection sous les fesses.
Et il ne s'est rien passé avec la petite?
Non, la fille, ma belle-fille à cette époque-là, était un peu choquée, mais pas vraiment en pleurs, mais un peu choquée, quoi.
Mais qu'est-ce qu'il lui a pris à la maman?
En gros, elle m'a juste dit, j'ai juste dit clairement, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, hey, pourquoi t'as fait ça, chérie? Elle me dit, ferme ta gueule, t'as fait ce que tu mérites, en gros, je me crève pas le cul à faire le ménage pour rien, quoi.
Oula, oui, mais elle avait jamais été violente comme ça?
Oui et non, et juste au bout de quelques mois de notre relation, elle s'était séparée du papa de ses 2 grands. Et il était souvent présent à l'appartement alors qu'il avait déjà un logement. Mmh. Et ce qui se passait, c'est qu'il était souvent là et il était toujours amoureux d'elle. Et les 2 premiers mois, je disais rien. Et quelques mois après, je suis intervenu une première fois, j'ai dit que si c'est pas normal qu'il soit tout le temps là, il a un appartement, pourquoi il prend pas ses enfants chez lui le week-end, quoi. Mmh. Et puis elle me dit, tu peux pas comprendre, c'est difficile pour lui, c'est encore difficile pour lui, on est séparés, il a du mal à accepter ça. Bon, j'ai rien dit. Puis la deuxième fois, je suis intervenu. Et là, choqué, elle me dit, t'as rien à dire, tu fermes ta gueule, tu peux pas comprendre ce qui se passe, c'est difficile pour lui, c'est moi qui décide encore, quoi.
Oui.
Et elle était souvent avec lui à bouger, à sortir et tout ça, et... ça a continué, je faisais les allers-retours parce que j'habitais en 79 à cette époque-là, en Deux-Sèvres. Et j'ai déjà un fils d'une première relation, d'un premier mariage. Mm-hmm. On s'est toujours bien, la vie a fait que la maman et moi on s'est séparés, mais on s'est toujours bien entendu. Mm-hmm. Et mon fils a rencontré mon ex-compagne maintenant. Il est venu quelques jours en vacances.
Et donc les 2 enfants aussi, j'imagine?
Ils étaient là, ouais. Ils étaient avec elle, ils vivaient avec elle. Et le premier soir, quand on est arrivé avec mon fils, son fils avait 3 ans et demi à cette époque-là. On les avait mis tous les deux dans la même chambre.
Le vôtre avait quel âge?
Le mien allait avoir 9 ans.
Non, c'était le plus grand, oui.
Oui, et il s'était plaint une première fois en me disant « Papa, j'en ai marre, il me saute dessus, il s'amuse à frapper, tout ça. » Puis je voyais pas, et puis moi, comme un idiot, je disais arrête de te faire ton douillet, quoi.
Ah, oui.
Et suite à ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une deuxième fois. Et là, j'ai vu mon fils en plein en pleurs. Et là, je suis intervenu auprès de la maman de mon beau-fils à cette époque-là. Et je dis, fais quelque chose avec ton fils et tout ça. Et là, à la sortie des paroles virulentes, en disant si t'es pas content, de toute façon, tu fermes ta gueule et t'as qu'à dégager. Et devant mon fils.
Wow.
Et là, j'ai dit à mon fils, écoute, prends tes affaires et on part.
Mmh.
Et au moment de monter à la voiture, mon fils était dans la voiture derrière moi et tout ça. Et là, mon téléphone sonne et elle me dit, je suis désolé, reviens chérie, je t'aime. Je suis désolé, je vais m'expliquer avec mon fils. Tu peux pas partir comme ça en pleine nuit, quoi. Je suis tombé dans son jeu.
Oui.
Je vous avoue que j'étais aveuglé, quoi.
Elle manipule bien.
Excusez-moi.
Respirez, Sébastien. Je comprends que tout ça a été douloureux et violent. Mais d'après ce que j'ai compris, vous en êtes sorti, là, maintenant.
Je suis parti depuis... J'étais parti une première fois en fin d'année, parce que... comment vous expliquer ? Je savais que ça allait pas très bien, déjà, depuis cet été de l'année 2018. Parce que elle a une vie pas facile, elle, de son côté, la maman, ce que je conçois.
Bah, j'imagine, pour en arriver à un degré d'agressivité tel, il faut avoir un problème, évidemment.
Que je vous explique, il y a 10 ans, elle a perdu sa sœur.
Oui.
Sa sœur a été tuée par son conjoint.
Mmh.
Son conjoint portait le même prénom que moi.
Ouf, oui, effectivement.
Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai su cette histoire par hasard. Et au bout d'un an, elle ne m'avait toujours pas présenté sa famille. Mais j'ai suivi la suite ce qui s'est passé dans sa famille. Et ça m'a un peu surpris. Et là, je me suis dit, il faut que tu t'éloignes de ta famille. Tu ne peux pas rester. Tu n'as pas fait le deuil, tout ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Ouais, ouais.
Et je n'ai pas insisté, mais elle était devenue violente verbalement. Il y a eu quelques gifles devant ses enfants. Parce que, en gros, quand elle faisait manger ses enfants, des fois, elle était un peu pénible. C'est comme tous les enfants à tout âge. En mangeant à table, ils en mettaient un peu à côté à table, ils en faisaient tomber par terre. Elle s'en prenait à eux verbalement en disant « Ferme vos gueules, c'est pas vous qui faites le ménage, vous voyez ce que je veux dire, quoi ?»
Elle est désaxée, là, il y a un problème.
J'ai beau parler de ça, depuis le 22 décembre, une première fois que je suis parti. En plus, la maman de mon ex... le 22 décembre, parce qu'il y a une première fois que je suis parti, le 22 décembre 2018, j'avais sorti coucher notre fille et ses deux enfants.
Ah, vous avez une fille en commun après, vous avez fait un enfant ensemble.
Oui, c'est ça. Ça avait calmé. J'ai toujours dit, t'as un souci, t'as un problème, faut qu'on se fasse aider, faut que tu te fasses aider. Et elle me disait toujours, tu peux pas m'aimer pour me traiter de folle.
Ouais, c'est un raccourci un peu brutal, ça.
Oui, mais c'est que moi, j'ai malheureusement eu une vie certes pas facile, mais avec du wiki, on apprend beaucoup de choses, quoi. On peut partir sur ce système-là. Et en gros, je peux vous expliquer en bref, j'ai été beaucoup élevé par mes grands-parents.
Mmh.
Et mon papa, c'est un papa adorable. Certes, il n'a pas beaucoup dit « je t'aime », mais on n'a jamais manqué de rien.
Mmh.
Ma maman, j'ai très peu connue, mais beaucoup connue, surtout dans la violence. Parce que mon frère et moi, on était violentés parce qu'on avait été alcoolique et mélangé des médicaments.
Ah.
Et on a eu beaucoup manque d'affection de la part de notre maman, mais notre papa ne montrait pas beaucoup de j'aime parce qu'il nous aimait, mais voilà, il s'intensifiait dans son entreprise, malheureusement, qu'il a perdu suite au divorce avec la maman, avec ma maman. Et à 16 ans, j'ai essayé de me faire remettre dans un foyer, un ras-le-bol, quoi. Et suite à ça, jusqu'à mes 18 ans, voire un peu plus, j'étais en foyer. Après, je suis revenu habiter avec mon papa. Ma maman était régulièrement en hospitalisation. Et à 20 ans, mon père a décidé de divorcer, à mes 20 ans. Et suite à ça, je me suis emménagé et j'ai pris mon appartement.
Oui.
J'ai rencontré la maman de mon premier fils. On a vécu presque 10 ans ensemble. Bon, il y a les aléas de la vie qui ont fait qu'on s'est séparés, les torts des deux côtés. Voilà, on ne peut pas reprocher l'un ou à l'autre.
Mais en bon terme, d'après ce que j'ai compris.
En bon terme, oui, ça va, ça a été difficile, mais on a toujours eu un bon terme.
Mmh.
Une très bonne relation. Et suite à ça, j'ai été un petit moment célibataire. J'ai eu mon fils les week-ends, les mois de vacances. Et un jour, mon fils, qui a été adorable, il avait 4-5 ans, pendant les vacances, m'a dit « Papa, ce serait bien que tu refasses ta vie. » Et puis, à cette époque-là, j'ai tout juste à avoir Internet. Et là, je me suis inscrit sur un site de rencontre. J'ai rencontré une femme qui est devenue ma deuxième épouse.
Mmh.
Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été le coup de foudre tout de suite. Et au bout d'un an, on s'est installé ensemble. Elle est tombée enceinte. Et pendant sa grossesse, on était en train de préparer notre mariage. Pendant sa grossesse, au bout de 3e mois de grossesse, elle est tombée malade. Elle avait 32 ans et elle a eu une vasculite de l'intestin grêle, ce qu'on appelle une gangrène de l'intestin grêle.
Mmh.
Et suite à ça, la grossesse était toujours en cours et elle a été hospitalisée et ils ont enlevé plusieurs mètres d'intestin grêle et tout ça. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'elle. Et arrivé à l'hôpital, on nous a diagnostiqué qu'ils ne savaient pas d'où venait exactement la maladie, que les gens étaient partis à Paris, un peu partout, quoi. Et quelques mois après plusieurs comas et tout ça, les hospitalisations, on nous a annoncé que. On m'a annoncé en privé d'abord, avant que j'y annonce, parce qu'on voulait savoir si c'était moi qui annonçais ou si c'était les personnes médicales, que sa maladie, il ne pouvait rien y faire, qu'elle était condamnée. Ah. Et suite à ça, j'ai pris la décision moi-même de lui annoncer la nouvelle. Et ça, c'est suite à, parce que j'ai mon deuxième fils, quand il est né, il est mort-né. Il est mort-né à 6 mois. Il faisait le poids d'un bébé de 4 mois. C'est suite au traitement de la maladie de la maman. Mmh. Et l'effet, tout ça, du coma, de tout. Et j'ai arrêté de travailler pendant presque 2 ans pour m'occuper d'elle jusqu'à sa mort. Mmh. Sachant qu'elle était condamnée, tout ça, j'étais aidé par les services psychologiques de l'hôpital.
J'imagine, oui.
Me préparer au deuil et tout ça. Oui. Ma deuxième épouse aussi. Tout était en cours, même si c'était difficile, je m'y étais préparé. Et je vais pas vous mentir, c'est une histoire que je pourrais pas oublier, même si j'ai fait le deuil. Voilà, la vie a fait que. Et suite à ça, elle est décédée. Elle avait 34 ans. Et j'avais déjà commencé mon deuil 6 mois avant son décès.
Oui.
Et suite à ça, j'ai mis 1 an avant de m'en reconstruire. Je me suis retrouvé à être débordé par plein de factures. Parce que j'ai arrêté de travailler, j'avais pas de revenus, mon aide d'accompagnement malade n'était pas reconnue auprès de mon emploi. Donc je me suis fait mettre à ma demande sous curatelle.
Ah oui.
Pour me faire aider.
Ouais.
Oui, carrément. J'avais 35 ans à cette époque-là. Et j'ai été énormément soutenu, aidé. Et suite à ça, un an après le décès de ma deuxième épouse, tout allait bien, psychologiquement. J'avais retrouvé un petit travail, même
si c'était temporaire. Vous avez réussi à remonter la pente, quoi.
Oui, tout à fait. Oui. Je m'étais mis un peu dans l'écriture en même temps.
Mm-hmm.
Et via les réseaux sociaux, j'ai commencé à connaître la maman de ma fille. Et là, je suis tombé sous le charme. Certes, plus jeune que moi, de 15 ans. Mais la différence n'a pas d'âge quand on aime, des fois, c'est ce qu'on dit toujours. Et c'était le coup de foudre. Et on s'est rencontrés en 2014. Et là, ça a vraiment été le coup de foudre complet. Et pourtant, il y a des amis qui m'ont dit « Fais attention, il y a un truc qui n'est pas normal. »
Oui, c'est-à-dire que là, vous êtes retourné vers un schéma féminin qui est comme votre mère, c'est-à-dire une femme violente.
Ouais, c'est ce que je me suis dit par la suite, après, au fil du temps, depuis que je suis partie, là. Mmh. Et,
comment vous avez réussi à vous en sortir de cette relation, alors?
En gros, j'étais dans un engrenage parce que c'était des insultes. Parce que au départ, ce qui se passait, en gros, c'est que quand je disais rien au départ envers ses enfants, parce que notre fille n'était pas là et j'avais peur de m'incorporer en tant que beau-père, vous voyez ce que je veux dire. Et c'était assez insupportable parce que j'avais vécu ça étant enfant. Et à un moment donné, je suis intervenu parce qu'elle était tout le temps pas à s'en prendre sans. Elle aimait ses enfants, mais elle se rendait pas compte de la façon qu'elle parlait à ses enfants. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute, tu peux pas parler comme ça à tes enfants, ça se fait pas, quoi. Et là, dans ses enfants, elle me disait « Tu fermes ta gueule, t'as rien à dire.
Ouais. »
Autrement, excusez-moi du terme, « T'es un con, t'es une merde. » C'était ça. Et sa fille a commencé à engranger ça. Son fils était adorable. Il n'y avait rien à dire par-dessus tout, mais c'est sa fille qui a engrangé tout ça et elle a 2 ans et demi. Elle a commencé à être violente verbalement.
Ben oui, c'est évident. Comment voulez-vous que les enfants se comportent autrement avec un schéma comme ça?
Et je lui dis régulièrement, à 2-3 reprises, je lui dis, t'as un problème, faut que tu te fasses aider. Faut qu'on se fasse aider par les services sociaux, quoi. Je voulais parler, mais j'avais peur.
Mmh.
Et elle me disait, et là, il y a eu des violences, des gifles, des insultes devant les enfants. Même ma belle-fille, ça a commencé quand elle est rentrée en fin d'année. À 3 ans, en maternelle, elle était violente à l'école. L'école le disait à la maman, mais moi, j'étais même témoin, la directrice m'en parlait, mais j'avais peur de le dire.
Et donc, comment vous en êtes sorti? C'est ça que je voudrais savoir.
En gros, 22 décembre 2018, on était en train de se séparer, même si pour moi, c'était difficile, parce que je l'aimais encore, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'était un amour malsain, mais voilà, j'étais amoureux, quoi. Et j'avais retrouvé un travail et tout ça, mais j'étais tombé dans une dépression parce que je voyais qu'il y avait encore de nouveau des insultes qui recommençaient tout ça.
Mmh.
Et le 22 décembre 2018, après avoir couché ma fille et ses deux enfants, en plus ses deux enfants m'ont dit bonne nuit, je t'aime, tout ça, tout allait bien. Et là, elle sort de la salle de bain, elle me sort comme ça, bah écoute, je vais chez ma maman le 29 décembre avec notre fille, et après je sors. Un peu étonné, j'ai dit, bah écoute, tu fais ce que tu veux, on se sépare, c'est pas un souci, mais je dis, notre fille, tu sors, c'est pas un souci, mais notre fille, je peux la garder. Ce qui est logique, hein. Et là, elle me dit, de toute façon, tu vas fermer ta gueule, t'as rien à dire, et si t'es pas content, je vais appeler ma mère et mon beau-père, tu vas dégager hélico tout de suite, direct, en hurlant, mais en hurlant direct. Hein. Et ça faisait une heure que sa fille était couchée, ma fille dormait, son fils était dans la chambre en train de regarder un dessin animé, sa fille de 6 ans est sortie, en criant, en hurlant, se mettant dans les jambes de sa maman et en me disant, en regardant, toi, Bastien, ta gueule, t'es un con. À 6 ans. Et là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la police. Parce qu'elle a appelé sa mère pour m'intervenir. Sa mère est intervenue, j'ai eu des insultes, des menaces. Je veux dire, je n'ai pas les preuves, mais je ne peux pas oublier, c'est dans ma tête. C'est inoubliable. Elle qui a perdu sa fille il y a 10 ans en plus. M'a dit clairement, tu vas crever à la fin de l'année, je vais tout faire pour que
attendez,
tu
crèves. Je comprends pas bien, vous avez appelé la police pour leur dire quoi?
Bah, que j'étais insulté et menacé.
Bon, on n'appelle pas la police quand on se fait insulter, c'est un peu curieux ça, non?
Mais j'avais déjà prévenu ce qui se passait, les violences, et j'étais en cours de partir à ce moment-là, avant. J'avais prévenu les services de police, j'avais déjà déposé une main courante quelques jours avant de ce qui se passait.
D'accord. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé concrètement?
Eh ben, j'ai été menacé clairement par la maman de mon ex.
Oui.
Et ensuite à ça, avant que la police arrive, après, ça a été son beau-père qui est venu dans la chambre. Et il m'a dit de vive voix, on y passe tous un jour et je sais que t'as pas peur de mourir, t'es passé par toutes les épreuves. Mais si t'as pas peur de mourir, moi je vais te faire comprendre ce que c'est de crever.
Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là?
Et ce jour-là, je vous mens pas, j'ai fait dans mon pantalon.
C'est terrible.
Il y avait les enfants qui étaient dans l'appartement. Ma fille n'a pas entendu, elle dormait. Et ça, c'était avant que la police arrive. Ouais, j'étais pas bien psychologiquement. Ouais, j'étais dans un manège et je me suis fait aider par une association là qui me suit encore actuellement. Mais le souci qui se passe, c'est que elle est jolie, elle est belle. Elle est faite du décès de sa sœur il y a 10 ans. C'était régulièrement, quand elle m'insultait ou quand elle me mettait des gifles de temps en temps, elle disait, de toute façon, tu comptes encore porter plainte, de toute façon, personne ne te croira et ils te prendront pour un fou. Parce que c'est une femme. Parce qu'elle a vécu il y a 10 ans une chose pas facile. Et je suis parti le 22 décembre. J'ai déposé ma courante. Je suis parti à 2h du matin avec ma fille, notre fille en gros, qu'on a en commun.
Et aujourd'hui, vous êtes où alors?
Je suis revenu le 25 décembre parce que je voulais que la séparation se passe bien, en bon terme. J'ai dit, ok, je rentre, mais je veux pas d'insulte. Je veux que la séparation se passe bien, qu'on soit d'accord sur la séparation, et tu t'arranges avec ta maman et ton beau-père, je veux plus en entendre parler. Mais j'ai dit clairement que j'avais peur de revenir, vraiment peur. Parce mais que les menaces...
Il y a de quoi, d'après ce que j'entends?
Mais j'ai pas de preuves, hein. Je peux pas mentir sur ce que j'ai vécu, mais voilà, c'est... Et suite à ça, finalement, deux jours après mon retour avec notre fille, parce que je suis parti avec notre fille, sa sœur, sa demi-sœur, on va dire, qui a 6 ans, s'en est pris par colère, parce que c'était souvent comme ça, par caprice et autres. Il y a bien coupé un visage et un coup dans le ventre à sa petite sœur de 3 ans et demi. Et la maman était sur son téléphone, en train de parler avec sa sœur ou je ne sais trop qui sur les réseaux sociaux. Et elle a dit, maman, ma sœur m'a tapé et tout ça. La maman n'a pas trop réagi. Et moi, tout de suite, j'ai eu l'instinct, j'entendais tout ça, j'ai eu l'instinct d'enregistrer. Et je suis intervenu, j'étais voir ma belle-fille à ce moment-là, et j'ai dit, t'as pas le droit de faire ça, tu peux pas faire ça. Et elle m'a rigolé au nez. Elle me dit, puisque tu me rigoles et que tu ne veux pas m'écouter, tu vas être puni, ce qui est normal. Et je l'ai mis au coin. Et là, à peine mis au coin, la maman se lève, elle me dit, c'est bon, tu la laisses, elle n'a rien fait de mal. J'ai dit, écoute, si, elle a fait quelque chose, elle a frappé notre fille, ça se fait pas. Et là, tout de suite, devant les enfants, elle a dit, c'est bon, tu vas pas commencer à me faire chier, tu vas fermer ta gueule.
Oui, mais ça, on tourne en boucle là, Sébastien, c'est à chaque fois le même scénario, à chaque fois, elle est violente, vulgaire, menaçante.
Et
comment vous êtes sorti de là?
Le 2 janvier, alors que je vous explique, ça a été le déclic, c'était le 2 janvier. Tout était en cours de préparation, les papiers, tout ça. Et le 2 janvier, un matin, tout le monde était debout, et avant de manger le midi, elle ouvre la porte du frigo pour servir pour une bouteille d'eau, et elle voit qu'il n'y avait plus de bouteille d'eau, quoi. Et là, pas en hurlant, mais en disant, ça commence à bien faire, le bazar, il y en a qui servent, mais ils remettent en place pour mettre une bouteille d'eau au frigo, vous voyez, quoi. Et là, je lui dis gentiment, bah, qu'est-ce qui se passe? Et là, au doigt, les enfants étaient en train de jouer, tout ça, et elle dit, toi, commence pas à me faire chier, ferme ta gueule, sinon tu vas dégager plus rapidement que tu ne le penses. Parce qu'on t'en compte, on t'est séparé, mais j'étais en cours de chercher un logement éventuel. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Et là, il y a sa fille de 6 ans qui arrive dans le couloir, et elle me dit, toi, ta gueule, Bastien, t'es un con. Et là, il y a ma fille de 3 ans et demi qui arrive, et me regarde les mains sur les hanches, et me dit, toi, papa, tais-toi. Et là, dans ma tête, ça m'a fait titre, et j'ai dit, ça va être quoi dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça va être ta gueule, papa, t'es un con, papa. Mmh. Et là, je me suis dit, faut que je parte, faut que je prévienne les services sociaux, faut que je prévienne la police, faut que je fasse tout. J'ai été prévenir les services sociaux, je leur ai tout raconté en détail, tout ce qui s'est passé. Ouais, on m'a dit, pourquoi vous n'avez pas prévenu plus tôt? Pourquoi vous n'avez pas parlé avant?
Mais vous aviez peur?
Moi, j'ai honte pour ça. Ouais, j'ai eu peur, mais j'ai honte, quoi. J'ai vraiment honte, et pourtant, je mens pas. Je suis parti depuis le 4 janvier. Le 9 janvier, j'ai rencontré un avocat en Côte d'Or, où je suis maintenant.
Vous habitez où, alors?
En Côte d'Or.
Vous avez trouvé un logement?
J'ai trouvé un logement 3 mois après mon départ. C'est quelqu'un qui m'a hébergé en urgence, qui me connaissait bien les réseaux sociaux, qui a connu ma vie avant, et qui a été témoin par téléphone de ce que je subissais, qui a témoigné par écrit. Et elle m'a hébergé pendant 3 mois avec ma fille. J'avais une attestation de domicile en bonne et due forme.
D'accord.
Et le 2 janvier, j'ai rencontré un avocat du barreau de Lyon. Et en sortant, elle m'a dit, vous allez tout de suite déposer plainte à la gendarmerie. Vous êtes une victime. Et là, j'ai raconté mon histoire aux gendarmes.
Oui.
Les gendarmes ont pris un peu à part ma fille parce qu'à un moment donné, il y a un autre des collègues de gendarmes qui m'auditionnait, qui allait prendre ma plainte en compte. Est venu avec des prospectus, il m'a dit « Tenez, monsieur », et là, j'ai regardé, j'ai dit « C'est quoi ça ?» Il dit « Bah, c'est... » On a appelé les services de la santé sociale, on a appelé les associations. Et j'ai dit « Pourquoi vous faites ça ?» Et je dis « On peut que vous croire, vu les faits précis, et vu les enregistrements qu'on entend de vos téléphones, vous êtes une victime. »
Et puis quand on vous entend, Sébastien, on voit bien que vous n'inventez pas tout ça, évidemment.
Oui, mais pourtant, vous voyez, le temps que mon enregistrement de ma plainte en Côte d'Or été transmis, je ne vais pas vous mentir, au SRPJ de Dijon. Je dépendais, j'habitais dans la Loire avant. Le temps que Dijon la transmette dans la Loire, la maman a déposé un référé auprès du JAF où elle habite, racontant ses faits à elle, disant que c'était moi le violent, racontant son histoire avec sa sœur.
Elle est prête à tout. Hein.
Et elle m'a fait passer pour un papa dangereux, violent, manipulateur. Et entre-temps, le référé à maman est passé prioritaire. Il y a eu une audience, il devait y avoir une audience le 7 mars. Mon avocat Dijon a contacté un avocat où elle habitait la maman pour reporter le référé au 28 mars. Et moi, entre 7 et 28, j'étais démuni et j'ai pris la décision d'écrire au juge des enfants de Côte d'Or. Par écrit, j'ai écrit 22 pages avec une copie de mon dépôt de plainte. J'ai raconté en détail ce qui se passait. Et mercredi dernier, j'ai rencontré la juge des enfants et j'ai tout raconté. Elle m'a demandé, m'a laissé la parole.
Oui.
Et là, la juge m'a mis devant le fait accompli. Madame, monsieur, vous savez très bien que c'est pas facile pour un parent de ne pas voir son enfant pendant 3 mois. Je dis oui, madame. Mais je dis, il y a un mois, j'ai proposé à la maman d'aller voir sa fille dans une association. Et elle a refusé, et le jour même, j'ai reçu un référé en assignation le jour même que j'avais proposé une rencontre avec sa fille dans une association. Et là, après ça, il y a la PMI qui... Parce que quand j'ai pris mes services sociaux d'où j'étais dans la Loire, la police et les services sociaux ont transmis le dossier ici où je suis venu et j'ai pris en contact avec la PMI, la protection de l'enfance, ce qui est normal, vu la procédure. Je les ai rencontrés, ils ont rencontré ma fille et moi et tout ça. Et il y a eu, quand j'ai cru que j'ai des enfants, la PMI m'a contacté en me disant qu'ils allaient faire un rapport en demandant est-ce que ma fille serait bien à ma charge avec une AMO. Parce que parle pour plus tard, au cas où si ma fille devenait violente, ça se rappelait des moments que ta maman parlait comme ça, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, bien sûr.
Et moi, j'ai accepté sans aucun problème, ce qui est logique, parce que quand on se retrouve seul, papa ou maman isolé, on peut être démuni, on peut plus savoir comment faire, quoi. Et là, ils m'ont annoncé que à ce moment-là, que la juge des enfants avait accepté de prendre en charge le dossier de ma fille. Et le jour de l'audience, la semaine dernière, j'ai expliqué tout ça et tous les faits. Et il y avait une déléguée de la PMI qui demandait une AMO et tout ça. Et au moment que la maman a donné, la juge a donné la parole à la maman, la maman, ça m'a mis hors de moi, je n'ai pas coupé la parole, mais elle a parlé tout de suite de sa sœur, qui a été tuée il y a 10 ans, que j'étais violent et que j'étais un papa dangereux. Et la juge des enfants n'a pas voulu se prononcer, et il y avait une décision rendue dans le monde de l'Ouest, mais il y avait une autre décision qui était prise en compte le 11 avril à Rouen, excusez-moi, dans la Loire. Et là, parce que la protection de l'enfance de où habite ta maman a fait des enquêtes et tout ça, alors que je n'avais rien compté en détail de tout ce qui se passait. Tout ce qui se passait, on dit qu'elle n'était pas en danger et tout ça, et pourtant, j'ai raconté moins dans le détail la façon qu'elle parlait, sa fille, comment qu'elle réagissait et tout ça. Et ils ont dit qu'il n'y avait pas de risque particulier, mais que j'ai lu le compte rendu du budget des affaires familiales. En gros, c'est. Ils ont pris en compte des témoignages des membres de la famille, du passé de la maman, oui. En partie.
Et pas de votre passé à vous? Toutes les souffrances que vous avez déjà dû endurer?
Ils veulent pas me croire parce que j'ai pas. En gros, l'avocat qui m'a représenté là-bas voulait absolument que je sois présent le jour de l'audience du 28 mars. Mais ce souci, ce jour-là, je ne pouvais pas parce que j'avais bien remis les clés de mon logement que j'avais obtenu au bout de 3 mois. J'ai m'étais battu pour avoir trouvé rapidement un logement pour ma fille et moi. Et elle m'a dit, mon avocat, il faut faire un choix. Mais je dis, le choix, il était clair. Déjà, j'avais peur de retourner là-bas suite aux menaces.
Donc vous n'êtes pas allé au tribunal?
Non, je me suis fait représenter par l'avocat, elle était là pour ça et je pouvais pas parce que j'avais la remise des clés du logement. Je pouvais pas la repousser.
Exactement à la même heure.
Bah le souci c'est que le temps que j'y aille là-bas et que je revienne, je ne pouvais pas être à l'heure pour la remise des clés.
Oui. Et donc qu'est-ce qui s'est passé depuis? On a peu de temps, Sébastien, maintenant l'émission va
oui.
se terminer.
Et ce qui s'est passé, c'est que depuis là, il y a eu une réponse, c'est que le juge des enfants s'est dessaisi de l'affaire, il l'a transmis. Où j'ai des enfants, d'où habite la maman. La maman a obtenu la garde. J'ai annoncé la nouvelle à ma fille qui a que 4 ans, mais bientôt va avoir 4 ans. Et ma fille a eu le visage complètement décomposé. Elle m'a dit, papa, je veux pas retourner chez maman.
Eh oui, mais le problème, c'est qu'à 4 ans, c'est pas elle qui va décider.
Bah, c'est ce qu'on m'a dit, mais on m'a dit, même qu'elle peur qu'elle crie, elle veut pas. Et là... J'essaye. J'ai en gros, j'ai à peu près 15 jours pour faire appel. Mais entre-temps, je ne sais pas comment faire parce que ma fille ne veut vraiment pas partir. Elle a peur. Il y a l'association qui veut essayer de m'aider, voir si on peut suspendre la décision.
Oui, mais il faut surtout... J'ai l'impression que votre avocat n'est pas très efficace dans l'histoire. Il faut avoir un avocat un peu plus mordant qui prenne votre défense vraiment et la défense de la petite.
Bah, l'avocat de la Côte d'Or, il n'y a pas de souci. C'est celui de la Loire qui m'a mis devant le fait accompli. Je m'énerve votre fille ou qu'elle veuille pas. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, c'est la loi. Elle peut crier, elle peut pleurer. Elle n'aura pas le choix. Elle sera obligée de partir avec sa maman.
Non, ça, c'est clair que c'est, malheureusement, ce n'est pas une petite de 4 ans qui va décider. Mais par contre, il faut vous battre. Il faut vous faire aider pour vous battre. Pour récupérer votre fille, au moins sur une garde, une garde alternée.
Ah, mais elle est encore avec moi, là, actuellement. Je ne l'ai pas encore rendue à la maman.
Oui, parce que...
J'ai pas reçu le papier d'huissier, déjà. Et le souci, c'est que le JAF a décidé, tant qu'il n'y aura pas une expertise de psy de la maman comme de moi, je n'ai pas le droit d'avoir ma fille en week-end, et je suis obligée d'avoir ma mieux protégée.
Oui, ça fait partie du fonctionnement. Est-ce que vous êtes suivi par un thérapeute en ce moment?
Oui, je veux, c'est sûr. Même ma fille, elle est suiveur, hein. J'ai tout fait et tout pour. J'ai même mis ma fille à l'école et tout ça, mais la PMI a vu que ma fille était, elle allait très bien psychologiquement, même si elle dit des choses. Maman crie, papa pleure, maman tape papa, je suis bien, ma soeur me tape pas. Vous voyez, elle disait tout ça au
Bien sûr.
début, et j'ai fait suivre par un pédopsychiatre. J'ai tout mis en route et tout ça. Et ils l'ont bien vu que ma fille allait bien, elle mangeait bien, elle jouait bien, elle avait même plus peur d'en mettre partout à table, ça peut arriver comme tous les enfants. Au début, c'était un stress où elle avait peur que je dise quelque chose au début quand on était parti, et finalement, non, elle se libère, quoi. Elle n'a pas peur de se salir, quoi.
Mais il faut pas lâcher l'affaire, Sébastien. J'entends à quel point vous êtes épuisé et à bout, mais il faut vraiment vous battre pour qu'elle, faut pas qu'elle gagne, parce que c'est pas possible que cet enfant
Ouais,
soit
mais là,
tiraillé comme ça.
là, légalement, elle peut la récupérer. Et ma fille ne veut pas. Elle ne veut pas retourner
Mais une
chez
fois
sa
de plus,
maman.
je sais bien, mais une fois de plus, c'est pas un enfant malheureusement qui va choisir ça. Il faut
Ouais, mais si je
il faut
m'oppose,
faire.
si je m'oppose, j'appelle la gendarmerie. Ils m'ont dit, si je
Non,
m'oppose,
non,
je
non, non,
peux
non.
m'y opposer.
Non, non, oui, mais vous vous opposez de manière légale, évidemment, sinon ça va être compliqué.
Mais je peux mettre. Ils m'ont dit clairement, vous avez le droit de vous opposer, mais vous pouvez être arrêté ou être en garde à vue.
Non, 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 vous ne vous y opposez pas hors cadre légal, mais il faut vous faire aider. Sébastien, malheureusement, ça se termine, je vais être
Ouais.
obligée de vous laisser. On a un très gentil message pour vous de Colo qui dit, Monsieur, votre témoignage est bouleversant. Votre chemin de vie est assez terrible et vous restez sincèrement bienveillant. Vous êtes absolument admirable. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. C'est signé Colo.
Mais bon, merci.
Battez-vous. Battez-vous.
Merci.
Hein, ne vous laissez pas faire, Sébastien. Vous méritez mieux que ça et la petite aussi. Faites-vous aider par
Mais
tous les
si.
services sociaux. Faites-vous aider par les avocats.
Mais les avocats, j'y suis à douche, mais s'il y en a un qui peut m'aider, vraiment m'aider, là, j'ai vraiment besoin d'aide.
J'entends bien, Sébastien. Je suis désolée, je suis obligée de vous laisser. Éventuellement, si ça va vraiment pas, on se reparle la semaine prochaine, vendredi prochain, si vous me rappelez, d'accord? Je vous embrasse. L'émission se termine, effectivement, il me reste quelques secondes. Demain soir, c'est Sophie Peters que vous retrouvez à ce micro à partir de 10h, de 22h30. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 22h30 aussi, avec grand plaisir. Et je vous quitte avec une petite phrase importante. Juste avant de vous endormir, imaginez, visualisez vos désirs les plus grands dans les moindres détails, comme s'ils existaient déjà. Ressentez-les et très bientôt, ils seront votre réalité. Et dans un instant, je vous laisse avec Pierre Bellemare et les dossiers extraordinaires sur Europe 1.